Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec François Méville-Deschênes, consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul, formé également en histoire. Il évoque la question délicate de l'appropriation culturelle à la suite d'une accusation à l'encontre de l'administration Plante par les Inuits du Grand Nord. Celle-ci a renommé le centre Peter McGill, centre Sanaak. Mais tout d'abord, Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible, nous parle de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier dernier. Trois éléments ont retenu son attention: l'ouverture d'une nouvelle ère, la Bible sur laquelle le président a prêté serment et pour finir, le poème prophétique d'Amanda Gorman. Bonjour Francis.
Bonjour Jean-Philippe.
Alors, comme toutes les deux semaines, on fait Bible et actualité. Là, Bible, Ancien Testament notamment, et actualité états-unienne. Et il y a des choses à dire, je crois.
Oui, ça fait deux semaines. On n'a pas bougé depuis deux semaines, Jean-Philippe. Il y a deux semaines, on parlait des événements qui sont produits au Capitole. Et puis deux semaines après, on est encore au même endroit.
Alors, et dans deux semaines, est-ce que vous allez avoir d'autres sujets plus intéressants ou pas?
Ah ben, c'est difficile. Je préfère, sincèrement, c'est très intéressant présentement là, avec tout ce qui se passe comme changement.
Alors bon, il y a eu une cérémonie, tout le monde craignait des débordements, etc. Rien, tout s'est très bien passé au point de vue de la chorégraphie.
Oui, il faut dire aussi qu'avec 28 000 soldats de la garde nationale aussi, ça a sûrement calmé les ardeurs de certaines personnes. Ce sera un autre sujet, mais on attendait du côté des conspirationnistes des événements grandioses, ce qu'on appelait de « storm ». C'est-à-dire la tempête qui était pour avoir des arrestations, tout ça. Et puis, c'est une cérémonie qui s'est déroulée là, sans incident. Puis, sous les thèmes de l'unité et de la diversité, surtout l'unité qui est un thème qui est important pour Joe Biden, pour sa présidence.
Alors, vous avez retenu trois éléments de cette cérémonie, Francis Daou.
Oui, évidemment.
On s'est perdu un petit peu. Vous avez donc retenu de cette cérémonie d'investiture trois éléments, hein?
Oui, donc j'ai regardé avec oui, Jean-Philippe, vous m'entendez?
Oui, je suis là.
Oui, ok,
oui,
parfait.
Je vous entends très bien.
Oui, ok, très bien. Donc, ce que j'ai retenu, oui, j'ai regardé l'événement avec mes yeux de bibliste. Et puis, la première chose à laquelle j'ai réfléchi, c'est que vraiment, l'investiture de Joe Biden, elle marque le début d'une nouvelle ère. Évidemment, c'est comme ça à chaque fois qu'il y a un nouveau président qui est nommé, mais présentement, la différence dans le genre de gouvernement, de la manière de gouverner des politiques entre Donald Trump et Joe Biden vont être très, très différentes. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre du côté de l'histoire et de la politique américaine. Et ça m'a rappelé un peu la même chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible.
Ah bon?
En fait, parce que à l'époque, dans l'Antiquité, on comptait, c'était littéralement une nouvelle ère qui commençait, parce qu'on calculait le compute des années d'après la date d'intronisation du roi. Donc, à chaque fois qu'on avait un nouveau roi, on retombait en l'an 1. Donc, on peut être en 17 du règne de Josias. Josias mourait, le prochain roi arrivait et on était on retombait en l'an 1. Et ce qui est amusant, c'est que si la date, elle n'était pas calculée selon la date de l'intronisation, mais selon le début de l'année qui était, dans le cas des Juifs, l'année liturgique. Donc, quelqu'un pouvait être intronisé une journée. Trois jours après, c'était le jour de l'an. Donc, 4 jours après, on était dans la deuxième année déjà de son règne.
Est-ce que ça permet de dater des livres de l'Ancien Testament? Parce que beaucoup de ces livres disent en telle année du règne de machin chose, il s'est passé ceci, donc ça donne déjà une idée un petit peu des événements.
Oui, ça c'est très apprécié, Jean-Philippe, je vous dirais, par les exégètes, quand on a un livre qui commence en disant la troisième année du règne d'Ézéchias, alors on n'a pas besoin de se casser la tête à savoir quand est-ce que ce texte-là a été écrit. Maintenant, c'est pas comme ça partout dans la Bible. Il y a certains livres, surtout dans la littérature prophétique, où on est très, très précis. On va dire, c'est en telle année du règne de tel roi, tel mois, tel jour. Donc, c'est très, très précis. Puis, il y a d'autres livres qui vont nous dire, en ces jours, à cette époque. Donc, on peut commencer. C'est presque disait « Il était une fois ». Donc, quand on a un livre qui commence dans la Bible, qui commence comme ça, on peut penser que c'est davantage un livre qui raconte que c'est un récit fictif, un conte fictif, tandis qu'on a d'autres livres où on voit là, c'est vraiment assis sur une réalité historique.
Ça, c'est l'Ancien Testament, mais est-ce que le Nouveau Testament suit la même règle de datation selon la première année du roi un tel ou...
Ça varie un peu. On retrouve certains éléments dans le Nouveau Testament aussi, pas dans tous les livres. Par exemple, l'Évangile de Jean n'est pas très précis à ce niveau-là, mais on voit ça, par exemple, bon, dans l'Évangile de Matthieu, le premier chapitre, c'est la généalogie de Jésus. La deuxième, on dit, bon, on n'est pas extrêmement précis, mais on dit « au jour du roi Hérode ». Donc, on a quand même une indication. Mais Luc, qui, vous savez, Luc, il commence son évangile en disant, mais j'ai fait des recherches approfondies. On n'est pas dans la science historique, mais on voit qu'il y a quand même un désir d'être assez précis dans ce qu'il va rapporter. Et chacun des trois premiers chapitres va situer l'action dans un contexte historique précis. Premier chapitre, il nous dit, comme Matthieu, au jour du roi Hérode. Deuxième chapitre, il nous dit « En ces jours, ceux de César Auguste », donc l'empereur romain. Et c'est très amusant et ça vaut la peine que je le lise au complet. Le troisième chapitre, après, donc le chapitre 1 et 2, ce sont les récits de l'enfance. Chapitre 3, on commence vraiment bon, l'histoire de Jésus avec le baptême par Jean-Baptiste. Et écoutez bien, voir à quel point on est précis. On dit « En la 15e année de l'empire de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée et qu'Hérode était tétrarque en Galilée et son frère Philippe tétrarque dans la contrée d'Iturée et de Traconite et Lysanias tétrarque en Abilène, Anne et Caïphe étaient souverains sacrificateurs. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, au désert. »
On est à la seconde près, presque, là-dedans.
On est à la seconde près. On est très, très loin de « Il était une fois » comme on a dans certains livres, par exemple, dans l'Ancien Testament.
Dans des temps immémoriaux. Ça, c'est le premier élément. Donc, vous parlez de l'investiture de Joe Biden et le parallèle. On ouvre une nouvelle ère et un parallèle avec l'Ancien et le Nouveau Testament qui permet d'ailleurs de dater les bouquins assez précisément dans la Bible. Votre deuxième élément, c'est quoi au sujet de cette investiture?
Le deuxième élément, c'est au sujet de la Bible utilisée par Joe Biden pour son assermentation. Donc, c'est les personnes qui ont écouté, que ce soit les nouvelles ou la cérémonie en tant que telle, pouvaient difficilement manquer cette Bible-là qui était énorme et qui semblait sortir là, directement du plateau de tournage des Pirates des Caraïbes. Là. Une gigantesque Bible avec des pièces de métal là, pour la tenir fermée. Et donc, moi, ça m'a intrigué. En tant que bibliste, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Bible? Et j'ai fait des recherches. En fait, c'est une Bible qui appartient à la famille Biden depuis 1893. Et ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden a utilisé cette Bible-là, et on peut faire des recherches sur Internet et voir les photos, c'est tout à fait vrai, il l'a utilisé pour toutes les cérémonies politiques pendant lesquelles il a prêté serment depuis 1973. Donc, le début de sa carrière politique, il avait été élu sénateur du Delaware et il avait prêté serment sur cette Bible-là, exactement la même Bible que la semaine dernière. Et un fait à noter, vraiment, il y a une histoire derrière cette Bible-là employée par Joe Biden. En 73, quand il avait prêté serment, il l'avait fait à l'hôpital, donc en janvier 73, parce que 19 jours, et c'est vraiment quelque chose qui est remarquable, 19 jours auparavant, sa première femme, on connaît cette histoire-là, et sa fille d'un an avait été tuée dans un accident de la route. Joe Biden voulait abandonner sa carrière politique. On l'a découragé de le faire. On lui a demandé de poursuivre. Donc, il a demandé s'il pouvait prêter serment à l'hôpital pour être avec ses deux autres fils qui étaient eux aussi dans la voiture, Hunter et Beau, qui étaient âgés de 2 ans et 3 ans, là, respectivement.
Mais alors, Francis, pardonnez-moi, mais il a fallu palanquer la Bible. Vous dites qu'elle est gigantesque. Il a fallu une grue pour faire entrer la Bible dans l'hôpital ou quoi?
Là, elle n'est pas gigantesque à ce point.
Ah, pardon.
C'est c'est quand même une Bible qui est très, très grande. Et comme je disais, Joe Biden, donc, prête toujours serment sur cette Bible-là. Mmh. Il a, et il inscrit, la famille inscrit à l'intérieur toutes les assermentations, les dates importantes qu'ils ont faites. D'ailleurs, son fils Beau, son fils aîné, avait été élu. Attendez que je me rappelle du terme, là. Il avait été élu procureur général de l'État du Delaware en 2007. Donc, il avait lui aussi prêté serment sur cette Bible-là qui était à l'hôpital, qu'il était à l'hôpital quand il avait 3 ans, quand son père était devenu sénateur. Et d'ailleurs, son fils Hunter, c'est l'homme, quand on regarde la cérémonie d'investiture, il y a un homme qui vient embrasser Joe Biden tout de suite après avoir prêté serment sur la Bible. Et c'est son fils Hunter, son autre fils, qui est le seul qui lui reste.
Il nous reste 9 minutes. Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible, socabi.org. Évidemment, je crois que tous ces gens-là dans la famille Biden inscrivent les grands événements comme ça. À chaque fois qu'ils ont prêté serment sur la Bible, il y a une page consacrée à cet effet dans la Bible même. Ça, c'est une Bible qui vient d'où, d'ailleurs? Est-ce qu'on sait?
En fait, cette Bible-là, d'où elle vient, bon, je ne sais pas exactement d'où elle vient, mais c'est ce qu'on appelle une Bible pour les biblistes, c'est ce qu'on appelle une Bible de Douai, donc qui est qui est le nom d'une ville en France où les premières éditions de ces Bibles-là ont été imprimées.
Donc, pas la Belgique, oui.
C'est ça. Et donc, les Bibles de Douai, en fait, pour être un peu plus précis, là, ce sont les premières Bibles catholiques écrites en anglais. Donc, on sait que Joe Biden est catholique. Donc,
Et qu'il lit l'anglais aussi.
Oui, exactement. Donc, ce sont les premières Bibles catholiques. Qu'est-ce que ça signifie, des Bibles catholiques? C'est-à-dire, c'est des Bibles dans lesquelles on a ce qu'on appelle les livres deutéro-canoniques, donc les livres de Judith, Tobie, le livre de la Sagesse, et ainsi de suite. Donc, qui ne sont pas dans les Bibles protestantes. Donc, c'était la première fois qu'on avait des Bibles catholiques traduites en anglais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une persécution des catholiques en Angleterre. Donc, les nobles catholiques s'étaient réfugiés en France et c'est à cet endroit-là qu'on avait imprimé là, les premières Bibles en anglais.
Biden est le deuxième président états-unien catholique. Est-ce que Kennedy, qui était le premier, avait prêté serment sur une Bible catholique aussi de Douai, peut-être?
Exactement la même chose, Jean-Philippe. Donc, c'était le 20 janvier 61, donc exactement 60 ans plus tôt, c'était sur une Bible de Douai aussi que John Kennedy avait prêté serment.
Donc, le président Biden a prêté serment sur sa gigantesque Bible de Douai. Sa vice-présidente Kamala Harris, elle n'est pas catholique, je crois qu'elle est baptiste. Elle aussi, elle a eu sa Bible pour elle-même ou quoi?
En fait, elle avait deux Bibles, peut-être pour balancer le caractère gigantesque de la Bible de Joe Biden.
Elle, en fait, elle tenait au poids.
Elle avait deux Bibles. Encore une fois, il y a une histoire, peut-être moins loin dans le temps que celle de Joe Biden, mais Kamala Harris avait deux Bibles. La première, elle appartenait à un ancien juge de la Cour suprême qui l'avait beaucoup encouragé, soutenu dans sa carrière. Mm-hmm. Et l'autre, une Bible qui appartenait tout simplement à sa voisine, une voisine qu'elle considère comme une deuxième mère et qui avait pris soin d'elle et de sa sœur lorsqu'elles étaient enfants. Donc, il y avait un côté plus personnel, je vous dirais.
La Bible de Regina, elle s'appelait Regina Shelton, cette voisine. Le président sortant, Donald Trump, avait aussi prêté serment sur deux Bibles, non?
Oui, alors on va, je vais être juste dans ma chronique aujourd'hui. Rendons à Trump ce qui appartient à Trump. Lui aussi avait prêté la Bible prêté serment sur deux Bibles. Et encore, c'était pas n'importe quelle Bible non plus. La première, c'est plus personnel. C'est une Bible qu'il avait reçue de sa mère en 1955 lors de sa graduation de l'école du dimanche. En fait, Trump est presbytérien. Et donc, c'est comme à la fin de sa formation, comme pour sa confirmation, en fait, qu'il recevait cette Bible-là. Donc, quelque chose de plus personnel. Et la deuxième, c'était la Bible sur laquelle Abraham Lincoln avait prêté serment en 1861. Donc, une Bible plus personnelle. et une autre plus historique, disons.
Ben, rendons à Trump ce qui appartient à Trump. Pourquoi pas mettre Barack Obama dans le coup aussi?
Ça devient très intéressant de regarder les bibles qui ont été employées comme ça. Et donc, 4 ans avant Donald Trump, en 2012, l'investiture se faisait le 18 janvier, donc 2012. Et c'est la journée c'est le Martin Luther King Jr. Day aux États-Unis. C'est l'anniversaire de Martin Luther King Jr. Et on avait pour souligner l'événement en même temps, Barack Obama avait prêté serment sur une Bible qui avait appartenu à Martin Luther King.
Ce qui est curieux, c'est que il n'y a pas une seule Bible sur laquelle on puisse, un genre d'une institution fixe, immuable, sur laquelle on pose la main pour jurer. Chaque président apporte la Bible qu'il veut.
Oui. Oui, je trouve que c'est quelque chose de remarquable. Et puis, on voit quelque chose peut-être qu'on ne voit pas beaucoup ici. Le côté personnel, ça, c'est la Bible de telle personne. Ça, c'est la Bible de telle personne. Ça, c'est notre Bible familiale. Peut-être mes enfants, moi, pourront dire dans 50 ans, ça, c'était la Bible de mon père. Mais
quand ils vont devenir président des États-Unis?
J'y travaille, Jean-Philippe, j'y travaille très, très fort.
Je vais faire une neuvaine pour ça. Je vais faire une neuvaine pour ça. Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible, socabi.org. Terminons avec votre troisième élément. Il nous reste combien de temps? 3 minutes et demie. La poétesse du jour, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, parce qu'il y a déjà eu des gens comme Robert Frost ou Maya Angelou, je pense, ou un nom comme ça, des grands poètes états-uniens qui font un poème pour l'investiture. Cette fois-ci, c'était une Californienne noire de 23 ans, Amanda Gorman. Elle a récité son poème aussi.
Elle a récité son poème. On pourrait dire qu'elle a volé la vedette lors de l'investiture de la semaine dernière. Mais dans les jours qui ont suivi, on s'est aperçu en fait que c'était Bernie Sanders qui avait volé la vedette.
Oui, puisqu'on
on parle que de lui dans les réseaux sociaux. Mais n'empêche, le poème d'Amanda Gorman a vraiment marqué les gens. Et moi, ce qui m'a fasciné de ce poème-là, ce que j'ai retenu, c'est vraiment son caractère prophétique. Et quand en disant ça, bon, le caractère prophétique de son poème, la réaction qu'on a souvent, que les gens ont quand on entend le mot prophète ou l'adjectif prophétique, c'est de penser que bon, mais son poème prédit l'avenir. Hein. On pense toujours ça, qu'un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, alors que c'est pas du tout le rôle d'un prophète. Dans l'Ancien Testament, il y a quelques prophètes dans le Nouveau Testament aussi. En fait, un prophète, c'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Un prophète, le mot hébreu pour désigner un prophète, c'est le mot navi, qui veut dire parler pour.
Ah, c'est pour avoir son avis, ce qu'on dit navi. Le prophète donne son avis, donc navi veut dire prophète.
Oui, bon. Jean-Philippe, je crois qu'il ne faudrait pas que vous deveniez bibliste. Ça pourrait mêler beaucoup les gens.
Et vos enfants ne jureraient jamais sur ma Bible à moi dans 50 ans quand ils seront présidents des États-Unis. Il nous reste 1 minute et demie pour terminer sur ce poème prophétique de Amanda Gorman pendant la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier dernier. Alors, vous dites que le prophète, Francis Daou, c'est pas un météorologue, c'est pas un économiste, c'est pas un diseur de bonne aventure, il ne voit pas l'avenir. Mais il est quand même dans un contexte historique donné. C'est pas quelqu'un qui flotte dans un nuage.
Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important de savoir. Quand on lit les prophètes de l'Ancien Testament, ils sont toujours dans une situation historique très, très précise. Ils interviennent dans un cadre historique très, très précis. Donc en ce sens-là, le poème d'Amanda Gorman était fait en fonction de l'investiture, de ce qui s'était passé il y a 2 semaines, des 4 dernières années où il y a eu une division importante là, qui s'est accentuée aux États-Unis. Et aussi, une autre caractéristique de la littérature prophétique, c'est une ouverture sur le futur. Non pas pour dire qu'est-ce qui va se passer, comme si on l'avait vu, comme si on était un devin ou un augure ou quelque chose comme ça, mais pour montrer les possibilités de faire des avertissements sur ce qui pourrait arriver et toujours se terminer sur une note d'espoir. Ça, c'est un autre trait qui est très important dans la littérature prophétique.
En 20 secondes, quelle est cette note d'espoir chez Amanda Gorman?
Un rapprochement des gens, de mettre de côté leurs différences, travailler ensemble sur les éléments qui les rassemblent.
Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible, socabi.org. Vous nous parliez donc de cette cérémonie d'investiture de Joe Biden avec trois éléments: l'ouverture d'une nouvelle ère, la Bible sur laquelle le président prête serment et le poème prophétique de Manna Gorman. Merci beaucoup, Francis. À dans 2 semaines.
Avec plaisir, Jean-Philippe.
Voilà, merci. À venir sur les ondes de Radio VM, l'appropriation culturelle. On vous revient après la pause.